Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Le cadre de cette manifestation, imaginez, nous sommes tout à côté du lac Titicaca. C'est là que s'arrête l'escale reportage d'un jour dans le monde. Ce soir, le plus haut du monde, le plus impressionnant peut-être, immense, mais de plus en plus pollué aussi, si bien que la Bolivie a dû prendre le problème à bras-le-corps, d'où les manifestations. On vous raconte ça dans un instant. Sous les radars et Amélie Perrier avec des chanteurs que le Maroc ne veut plus entendre à la radio. Bobby Wine qui est de retour en Ouganda. Une fillette qui refuse de chanter l'hymne australien parce qu'elle le trouve discriminant vis-à-vis des aborigènes. 18h50, bonsoir Bruxelles, ou comment l'Europe peut vous réjouir autant qu'elle vous agace. Quentin Dickinson nous expliquera une des conséquences très inattendues du Brexit. Ça passe par le Luxembourg, vous verrez. 18h55, le monde à l'envers. Cyril Sauvageau ce soir avec une Angela Merkel qui l'a pour le coup un peu la tête à l'envers. Mais tout de suite, direction la Russie, un peu l'ambassade de Russie en France également. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
130 jours. Ça fait donc 130 jours aujourd'hui que le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov est en grève de la faim, opposant à l'annexion de la Crimée par la Russie. Il a été condamné à 20 ans de prison pour terrorisme. On y met des guillemets parce que son procès a été qualifié de stalinien par Amnesty International. Il se bat pour la libération de tous les prisonniers politiques ukrainiens. Il est emprisonné en Russie d'ailleurs, comme les autres. Il est tout au nord de la Russie, dans une prison extrêmement difficile. Et ici en France, un collectif d'artistes, d'écrivains, d'intellectuels, de cinéastes se bat pour que cette grève de la faim ne se fasse pas dans l'indifférence générale, faute de pouvoir faire beaucoup plus d'ailleurs. Bonsoir Marie Desplechin.
Bonsoir.
Vous êtes écrivaine, gréviste de la faim en soutien à Oleg Sentsov. C'était mardi, puisque c'est une chaîne en
voilà,
fait.
C'est, on prend le relais, on arrive un matin et on prend le relais du précédent qu'on retransmet au suivant le lendemain. Ça fait quelques jours que la chaîne a commencé, mais la mobilisation pour Oleg Sentsov, elle existe depuis un bout de temps. Souvenez-vous de la Coupe du Monde, il y avait eu beaucoup de...
C'est au moment de la Coupe du Monde qu'il a commencé d'ailleurs, il faut rappeler aussi que c'est ça qui a déclenché aussi...
Il a commencé le 14 mai dernier, je crois, ça. Et au moment de la Coupe du Monde, donc il y a eu des tribunes, des protestations partout dans le monde. Mais ce qu'il y a comme rien ne change, si vous voulez, une espèce de silence s'installe, et pendant ce silence, il risque de mourir à tout instant, et là il est dans un état qui est extrêmement précaire, il se nourrit d'eau sucrée et de quelques cuillères. Et en fait, si on laisse ce silence s'installer, il meurt. Et non seulement lui, mais les 70 Ukrainiens qui sont emprisonnés avec lui et dont il demande la libération.
Est-ce que vous disiez de vous parler de ses conditions, sa santé en ce moment? Est-ce qu'on sait comment il va? Parce qu'en plus, on a des nouvelles de manière extrêmement espacée, en fait.
Oui, on en a par son avocat. Mm-hmm. De temps en temps, il y a des visites. Il a des relations avec sa cousine, avec la représentante des droits de l'homme en Russie. Donc, si, il y a des nouvelles qui passent. Il est au courant de ce qui se fait. C'est pour ça qu'on le fait aussi. Il sait de tout ce qui se fait dans le monde. Il est extrêmement conscient de ce qui se passe, de ce qui risque et de ce pourquoi il le fait.
Et est-ce que vous savez si on est les seuls en France à organiser, si ce n'est ce genre de choses ou autre chose, peu importe, mais s'il y a un intérêt particulier pour la France vis-à-vis de Oleg Sentsov, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand, d'européen, qui peut se mettre en place?
Ça se passe déjà un petit peu partout dans le monde, mais ce sont des initiatives qui sont plutôt isolées. Aux États-Unis, il y a pas mal de gens qui ont posé avec sa photo, qui ont pris parti. Il y a des... Et en Europe aussi. En France, ce qu'il y a, c'est que c'est un cinéaste, c'est un réalisateur talentueux. Et en France, il y a une communauté de cinéastes, un cinéma extrêmement vivant et qui est prêt à se mobiliser avec des gens comme Christophe Ruggia, qui sont des gens qui sont concernés, militants. Et donc, c'est possible qu'un foyer organisé parte de la France et se répande dans le monde. Mais ça peut aller très vite parce qu'on voit en France... On est quelques-uns à commencer, mais d'autres gens appellent en disant « Est-ce qu'on peut venir? Est-ce qu'on peut prendre la place dans la chaîne ?» C'est-à-dire... Beaucoup de gens sont sensibilisés à l'héroïsme cet homme jeune, puisqu'il a 42 ans, et à l'iniquité des conditions qui lui sont faites. Le procès, c'est, vous disiez stalinien, le procès, on dirait, c'est une blague. Il a pris 20 ans de prison pour rien.
Parce que on va rappeler, Anna-Colin Lebedev, je vous ai pas présenté, bonsoir.
Bonsoir.
On va rappeler de quoi il était accusé d'ailleurs, accusé de terrorisme, en gros soupçonné d'avoir voulu, c'est aussi bête que ça, faire sauter une statue de Lénine. L'un des chefs d'accusation, c'était ça?
Alors en fait, le chef d'accusation, oui c'est ça, c'est d'avoir préparé une explosion de la statue de Lénine, mais en réalité, il faut bien le replacer dans le contexte, on est au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie, Oleg Sentsov est crimé Crimée 1, et il est très important pour la Russie à ce moment-là d'écraser toute tentative de résistance de ceux dans la population criméenne qui seraient opposés à cette annexion. Donc oui, c'est un procès pour l'exemple et c'est un procès pour rien. Il n'a pas une goutte de sang sur les mains.
Autour de nous, Marie Desplechin, je reviens vers vous. Il y a eu quelques mots qui ont été prononcés par Emmanuel Macron d'ailleurs, au moment d'une rencontre avec Vladimir Poutine. Il y a eu quand même 2 ou 3 dialogues de ce genre-là.
Oui.
Pour rien, ou est-ce que de toute façon, oui, enfin, il faut aussi faire
savoir. Rien, parce que la position des gouvernants européens, c'est il ne faut pas fâcher Poutine, donc on va en parler derrière la porte fermée, parce que ça risque de poser un problème. Et alors, Poutine dit, je vais réfléchir, et puis rien ne bouge pendant que Oleg Sentsov est en grève de la faim. Il y a une phrase de Jonathan Little dans une interview au début de la grève de la faim qui est vraiment très éclairante pour ça, qui résume bien. Il dit, Vladimir Poutine, il a peu de cartes, mais il en joue très bien. Mm-hmm. Les dirigeants européens, ils ont plein de cartes, mais ils en jouent très mal. Et donc, on n'a pas l'impression que tout ce qui pourrait être fait, en fait, pour lui, parce que Poutine, il souffre, en fait, des moyens de rétorsion qui peuvent être apportés, et ben, qui sont pas, voilà, il n'y a pas le courage de les appliquer.
À l'époque des Pussy Riot, à un moment, ça avait eu du sens, en fait, de parler, de le dire, de faire sortir aussi des choses que les Pussy Riot écrivaient depuis leur prison, qui étaient aussi des prisons extrêmement éloignées. Donc, est-ce qu'on peut se dire, Anna-Colin Lebedev, que au fond, oui, effectivement, à un moment ou à un autre, ça arrive non seulement jusqu'à lui, c'est ce que Marie Desplechin disait, mais bien au-delà aussi, et que peut-être ça sert réellement à quelque chose, tout ça.
Moi, je suis convaincue que ça sert réellement à quelque chose. Je rejoins Marie Desplechin, on n'en sait rien. Hein. Mm-hmm. Nos diplomaties européennes ont énormément de contraintes. Mais effectivement, plus il y a une pression de la société pour soutenir Sentsov, plus aussi nos dirigeants seront aptes à négocier, avec Vladimir Poutine.
Il y a beaucoup de contraintes et en même temps, la situation fait que, regardez, alors effectivement, on leur a donné la Coupe du Monde. Tiens, aujourd'hui même, les sanctions ont été levées de l'Institut de dopage russe. Donc, on donne aussi beaucoup de gages à la Russie en ce moment. On en a terriblement besoin sur la Russie. Est-ce qu'on n'est pas complètement bloqué, y compris autour de Sentsov, finalement?
Moi, je crois que Sentsov, c'est vraiment une question de principe. Et c'est en cela que ça peut être important de se mobiliser. Parce que, au-delà de notre soutien à une personne qui a le courage de combattre pour la liberté d'autres autour de lui, je pense que si on abandonne Sentsov, si on laisse mourir Oleg Sentsov, on valide l'annexion de la Crimée. On accepte l'annexion de la Crimée.
Et est-ce qu'on n'a pas déjà validé l'annexion de la Crimée? Vladimir Poutine parade, c'était encore le cas hier ou avant-hier, devant ce fameux pont qui rejoint la Crimée et aussi la Russie. Honnêtement, est-ce que nous, communauté internationale, on n'a pas déjà validé ça?
Je crois que c'est un point de non-retour. Non, nous n'avons pas validé l'annexion de la Crimée. Au niveau interne en Russie, si, bien entendu. Hein, les Russes considèrent que la Russie fait partie de leur territoire. C'est d'ailleurs pour cela que l'affaire Sentsov n'arrive pas à avoir un retentissement à l'intérieur de la Russie, au-delà des cercles des défenseurs des droits de l'homme. À la différence des Pussy Riot. Sur les Pussy Riot, il y avait un débat. Ces filles sont coupables, pas coupables, elles ont mérité, elles n'ont pas mérité. Oleg Sentsov, c'est la guerre en Ukraine.
Il y avait des vidéos aussi des Pussy Riot. Mine de rien, ça compte. Il y avait des choses qu'on pouvait envoyer, qui pouvaient se transmettre un peu partout. Est-ce qu'il y a des choses qui montrent Oleg Sentsov, par exemple en manifestation, par exemple en Crimée? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on peut donner, montrer aux gens pour que la prise de conscience soit encore plus importante?
Ma foi, ce n'est pas aussi spectaculaire. Hein. C'est un.
Après, c'est un cinéaste. Il y a ses films. Oui. C'est un écrivain.
Il va être projeté samedi d'ailleurs. Voilà. On en reparlera. Ouais.
Qui a été récompensé. Et l'histoire, c'est nous qui la faisons. C'est pour ça que le fait de faire ces manifestations est utile. C'est-à-dire, on empêche le souvenir et on crée. À un moment, les gens qui créent l'histoire, en empêchant le fait qu'il n'y ait plus de mémoire, ces gens-là gagnent. Peuvent.
Anna-Colin Lebedev, si on va dans la rue à Moscou aujourd'hui et qu'on demande aux gens, est-ce qu'ils connaissent la situation de Oleg Sentsov aujourd'hui? Est-ce qu'ils savent qu'il y a 70 à peu près ou 80 peut-être prisonniers politiques ukrainiens dans les geôles russes ou pas?
Je pense que le russe ordinaire n'en a jamais entendu parler. C'est une information qui est accessible abondamment sur les médias en ligne, mais en revanche, la télévision d'État n'en parlera pas.
Excusez-moi.
Et tant que la télévision d'État n'en parle pas, ça n'existe pas pour la population russe.
Et c'est pour ça que ça n'effraie pas, j'imagine, Vladimir Poutine. Vous disiez que c'est compliqué de savoir ce qui se passe derrière des portes closes. Est-ce qu'on a quand même une vague idée de ce qu'il pense, lui, Vladimir Poutine, ou est-ce qu'on est dans la pure indifférence? Il peut mourir tout seul, Oleg Sentsov, ça ne changera rien pour Vladimir Poutine.
Moi, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Une vie humaine d'un condamné ukrainien, ça ne compte pas à l'échelle de la Russie. et les chefs du pouvoir russe. Hein, ça, pour le pouvoir russe, cela ne compte pas. En revanche, pour nous, ça compte. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il faut, il faut vraiment partir de là. Vladimir Poutine n'écoutera pas la population russe. Vladimir Poutine n'écoutera pas les arguments en termes de droits de l'homme. En revanche, il écoutera les pressions de ses partenaires et de ses adversaires à l'étranger.
Alors maintenant, si on regarde effectivement à l'intérieur de la Russie, est-ce qu'il n'y a pas, alors faut jamais être, j'allais dire, trop optimiste vis-à-vis de la relation entre Poutine et sa population, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de raidissement en fait aujourd'hui? On voit des manifestations, ça se passe tous les dimanches contre les retraites notamment. Il se passe quand même des choses dans la société civile ou pas? Est-ce qu'il y a une forme de raidissement quand même de la part de Vladimir Poutine?
Il se passe énormément de choses dans la société civile russe, mais pas forcément celles que l'on voit. Ce n'est pas forcément au niveau de la manifestation que cela compte. Les taux de soutien à Vladimir Poutine tels qu'ils sont affichés ne sont pas dignes de confiance. Hein, la population, je pense, soutient beaucoup moins le président que les chiffres ne pourraient le faire croire. Mais les gens vont faire le choix aujourd'hui de s'investir localement par des petites initiatives, de préférence apolitiques pour ne pas risquer leur vie comme Oleg Sentsov, mais pour essayer de changer les choses à l'intérieur, de placer des acteurs peut-être un petit peu plus sensibles à la démocratie, à différents endroits, en région notamment. Ça ne se passe pas à Moscou, ça se passe ailleurs.
Alors un exemple, il y a ce gouverneur, est-ce que c'est un gouverneur, je ne voudrais pas dire de bêtises, qui était très très loin dans les sondages et puis qui au dernier moment a gagné les élections, donc on sait bien que c'est une fraude patentée. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que des gens n'ont pas voté pour lui réellement et ont voté pour son opposant. Est-ce que c'est l'un des signes qui peuvent être intéressants ou pas?
Les élections locales sont de toute façon intéressantes. Bon, dans cette histoire, en fait, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça, c'est une manipulation politique des deux côtés. Mais il est intéressant de voir qu'effectivement le parti du pouvoir, lui, commence à se déliter, le soutien est moins fort. Poutine réussit à mettre en place des technocrates, mais les technocrates n'arrivent pas à convaincre la population. Donc oui, il y a des désirs de changement, ces désirs de changement se font sentir, et plus on est loin de Moscou, plus on les sent.
Ce qui maintient si haut le modèle russe, j'y mets aussi des guillemets, le modèle de fermeté en tout cas, c'est l'idée de la grande Russie, de la fierté russe. Vladimir Poutine a beaucoup joué autour de ces thèmes-là, et notamment pour en être là où il est aujourd'hui. Est-ce que face à une économie qui est beaucoup plus vacillante, par exemple, face à une pression qui serait sociale et pas politique, les cartouches de Poutine sont finalement bien moins efficaces?
Vous avez raison, mais c'est ce qui l'a amené à changer le discours qu'il adresse à la population. Auparavant, la légitimité de Poutine était justement fondée sur le bien-être économique. Vous vous enrichissez, vous allez mieux, je suis au pouvoir, pourquoi changer cela? Aujourd'hui, Poutine dit, nous sommes entourés d'ennemis, nous avons besoin de sacrifices. L'économie va moins bien, c'est normal. Mais c'est parce que les ennemis nous veulent du mal. Les sanctions qui nous sont imposées, en réalité, ont pour vocation à détruire la Russie. Les Russes reçoivent, comme ont tendance à dire certains analystes russes, deux messages. Celui de leur frigo et celui de leur télé. Et il y a vraiment un jeu pour savoir lequel sera le mieux entendu. Pour l'instant, ils entendent un petit peu mieux la télé que le frigo.
Bon, bah écoutez, ce sera la phrase de conclusion. Marie Desplechin, on rappelle que cette chaîne dont vous parliez, à laquelle vous avez participé, elle continue. Il n'y a aucune raison pour qu'elle s'arrête. Au contraire, vous nous l'avez dit, elle risque d'augmenter même.
Je pense qu'elle va augmenter, oui, parce que l'histoire particulière et l'héroïsme de ce que représente Sentsov, ça suscite un élan de solidarité qui est très important. Et samedi soir, donc ce sera à côté de l'ambassade de Russie, Boulevard Alan, il y a la projection du premier film.
Gamer, ça s'appelle.
Voilà, c'est ça, de Alex Sentsov. Et on peut passer toute la journée, les gens qui le souhaitent peuvent passer, saluer ceux qui sont là, et c'est une ambiance qui est extrêmement sympathique. Et il y en a un au milieu qui jeûne, ce qui est bien peu de choses, mais enfin bon.
Oui, mais...
Qui permet d'entretenir la chaîne.
Exactement. Merci beaucoup, merci Marie Desplechin. Merci beaucoup à vous, Anna Colin Lebedev. Je vous ai pas présenté, je vous ai mal présenté tout à l'heure. Et donc, je vais le redire, vous êtes chercheuse en sciences politiques, spécialiste de la Russie, et vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Paris-Nanterre.
Merci.
Voilà, les choses sont bien dans l'ordre. Merci mille fois.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe sur le lac Titicaca entre la Bolivie et le Pérou, un joyau pour les Boliviens menacés par la pollution. Amélie Perrier vous racontera notamment l'histoire de cette petite fille qui ne veut pas chanter son hymne, l'hymne australien, parce qu'elle le juge discriminatoire. On ira aussi au Maroc où on ne veut pas entendre certains chanteurs violeurs à la radio. L'Europe telle que vous l'aimez ou telle qu'elle vous agace, et Quentin Dickinson au Luxembourg ce soir avec des écoles de langue qui fleurissent. Et figurez-vous que c'est une conséquence du Brexit. Le Monde à l'envers et Cyril Sauvageau. Ce soir. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Avec Angela Merkel qui a du mal à se remettre droit.
Oui, on évoquera la perte d'autorité de la chancelière qui est de plus en plus affaiblie politiquement et qui en fait n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis le début de son quatrième mandat.
Et ce sera tout à l'heure à 18h55. Le tour de la planète continue sur France Inter, direction New York. Odetta Hartmann, you.
Climbing up a mountain. You, it's like drinking from a fountain. You, it's like swimming in a river. You, the way you touch me, it makes me shiver. And I wanna run to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you. It's like you got them superpowers. You make me bloom just like a flower. Devour me. It's better when we're together. Whatever you say, it's perfect with you, Ryan, to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you, Ryan, to the edge of the earth with you. Yeah, I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you.
Moi, je voulais qu'on l'écoute jusqu'au bout, Odetta Hartmann, parce que j'aime beaucoup. Ça s'appelle You You.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimov Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perrier. C'est maintenant, ça commence au Maroc. Amélie, avec les grandes radios qui se mobilisent contre une star de la chanson.
Et par exemple, la radio 2M où l'on peut entendre ça.
الكلمة لكم من 10 ل 12 مع رضوان فرحي على راديو دوزام.
والكلمة لكم على
voilà, de la musique, un jingle, l'annonce de l'émission à venir, ça on connaît hein, Fabienne, rien d'extraordinaire, mais me direz-vous, sauf que sur Radio Deuxem, vous entendrez Ayoub Africano, c'est le chanteur comme ici, mais plus Saad Lamjared. Saad Lamjared, lui, fait de la pop, des millions de vues pour ses clips sur YouTube et 2 mises en examen pour viol à son actif. Une 3e plainte, la dernière en date, c'était fin août en France. Lamjared a été arrêté à Saint-Tropez, il a été écroué avant-hier. L'affaire prend de l'ampleur au Maroc avec l'apparition de mots-clés sur les réseaux sociaux. Le hashtag Mazaktash, on ne se tait pas. Hashtag également Lamjared out, dehors. Viré des ondes, en tout cas. Radio 2M écrit que d'un commun accord avec toute l'équipe, elle ne fait plus la promotion de Saad Lamjared depuis que l'affaire est aux mains de la justice. Hit Radio, pour sa part, lance un sondage auprès de ses auditeurs pour cesser ou pas de le diffuser. Il faut savoir que le chanteur reste très populaire et a des amis au plus haut sommet de l'État. Le roi du Maroc, Mohamed VI, avait déjà pris en charge les frais d'avocat lors des dernières poursuites pour viol.
On prend des nouvelles d'un autre chanteur, il s'appelle Bobby Wine, c'est cet opposant ougandais qui est revenu au pays aujourd'hui.
Oui, le chanteur devenu porte-parole d'une jeunesse opposée au président Museveni, au pouvoir depuis 32 ans, a été escorté par la police à sa sortie de l'avion tout à l'heure, mais il a pu s'exprimer devant ses soutiens, ensuite librement. Je suis de retour dans le pays que j'aime, mais je n'arrête pas le combat, je le reprends là où je l'ai laissé avant de partir, dit-il, car il vient de se faire soigner aux États-Unis. That would make life better for the future generations.
Alors, on vous a déjà raconté son histoire, l'enfant du ghetto, devenu star de la chanson, vous l'entendez là, puis député. Il défie le pouvoir dans ses chansons, ses rassemblements très populaires. C'est trop pour la présidence, il est accusé de trahison, d'avoir attaqué le convoi présidentiel cet été. En détention, Bobi Wine affirme avoir été torturé et donc a quitté le pays au début du mois pour aller se faire soigner aux États-Unis. Hier, nos confrères de RFI ont réussi à le joindre sur le chemin du retour.
Walking stick. J'ai besoin d'une canne pour me déplacer. Je marche toujours avec beaucoup de difficultés. Mais j'ai bon espoir de pouvoir marcher de nouveau normalement d'ici une bonne semaine. J'ai été traité de manière inhumaine. On m'a battu, on m'a attaché les deux mains et les deux pieds. J'ai subi des tortures pour avoir dit la vérité.
Voilà, Bobi Wine est donc revenu à Kampala. Il a été escorté par la police jusqu'à chez lui. On ne sait pas encore s'il est assigné à résidence.
Et puis Amélie, on termine avec une petite fille qui, elle, refuse de chanter.
Et là aussi, c'est un geste politique. Harper Nilsson n'a que 9 ans et elle n'a pas voulu se lever pour chanter ça. Vous l'avez reconnu.
Oui, bien sûr, l'hymne australien, bien sûr.
L'hymne australien.
Je le chante souvent
Advance,
moi-même.
Australia Fair. En avant, belle Australie. Et si Harper ne veut plus entonner l'hymne, ça n'a rien d'un caprice. Je vous rappelle qu'elle a 9 ans. Elle explique que c'est parce que le chant marginalise un pan entier de la population. Il nierait l'existence de la population indigène. Quand l'hymne dit « Nous sommes jeunes », il méprise totalement les aborigènes, selon des propos de la petite fille reprise par le Guardian. Harper a été punie à l'école, une heure de colle, ouais. Mais ce sont les politiques qui se sont montrés les plus sévères. La patronne du parti d'extrême droite la traite de sale gosse à qui on a lavé le cerveau. Ses parents ont quand même félicité son geste courageux.
Bah, évidemment. Conscience politique si jeune. Merci beaucoup, Amélie Perrier. Merci mille fois.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
C'est en Bolivie que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, dans un coin merveilleux de la Bolivie, partagé avec le Pérou d'ailleurs. Je vous emmène sur les rives du lac Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde, grand comme la Corse. Les Boliviens d'ailleurs le considèrent comme sacré, ils y pêchent, ils l'utilisent pour arroser leur culture. Mais attention, désormais, vous devinez quoi ? Pollution. Certaines parties du lac les moins profondes sont souillées par des rejets miniers, du mercure, du zinc, du cuivre, sans parler des eaux usées des villes alentour. Bonsoir Alice Campagnol.
Bonsoir Fabienne.
Alice, la situation est inquiétante sur ce lac Titicaca, mais il semblerait que la Bolivie vive en ce moment une vraie prise de conscience.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, ils sont plus d'une cinquantaine à s'être réunis à Copacabana, sur les rives du lac. Tous sont là pour ramasser les détritus sur la plage dans une ambiance très bon enfant. Le panorama est à couper le souffle, à vrai dire. Les sommets enneigés de la cordillère surplombent les îles vertes du lac. Pourtant, à y voir de plus près, il y a des canettes, des bouteilles en verre et autres sacs plastiques qui jonchent le sol et viennent ruiner ce paysage éblouissant. Heidi Alazar est l'une des organisatrices de cette journée de nettoyage. Pour elle, l'initiative est avant tout un premier pas.
Nous sommes nombreux à nous être demandé que pourrions-nous faire. Ce que l'on fait aujourd'hui, nous savons que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais si on parvient à créer de nouvelles habitudes, alors là, les choses pourront peut-être s'améliorer.
Et ici, chacun ses raisons pour s'engager.
Ma fille est encore un bébé, elle a encore beaucoup de temps devant elle. Et j'aimerais qu'elle puisse profiter de cette nature. Mais si on continue de polluer, tous ces endroits magnifiques vont disparaître.
Moi, je viens souvent et je me baigne dans le lac. Mais la dernière fois que je suis venue nager, ça a été très triste parce que j'ai commencé à sentir des démangeaisons terribles sur tout mon corps. J'ai vérifié et ce sont des puces d'eau qui m'ont piqué. Et elles sortiraient quand les taux de pollution sont très hauts.
Aujourd'hui, la société civile se mobilise et pour le maire de Puerto Pérez, un autre village contaminé sur les rives du lac, le temps presse.
Dans les faits, notre mode de vie est brisé. Et donc, les gens du village partent pour la ville, pour La Paz ou El Alto. Certains vont ailleurs dans le pays, d'autres quittent la Bolivie.
« Mais pour résoudre les problèmes de pollution du lac, l'engagement doit être beaucoup plus large. Retour donc à La Paz, où un colloque international réunit des politiques, des associations, des scientifiques. Il y a ici des Boliviens et des Péruviens, tous concernés par le Titicaca.
Simplemente acá falta actuar, ya tenemos los datos y me preocupa mucho. Uno de los bioindicadores que tomé, una pequeña especie.
Xavier Lazaro travaille à l'Institut français de recherche. Il est la référence scientifique en Bolivie en ce qui concerne le lac. Et selon lui, une réelle dynamique est en train d'apparaître.
On a vu que les scientifiques finalement ont réussi à déclencher un phénomène qui est d'informer les politiques, mais aussi la société civile, de l'état actuel du lac. Et heureusement, ça semble avoir déclenché une réaction de la société civile qui était un peu passive jusqu'à présent. Donc on pense avoir tous les acteurs.
Car pour dépolluer le lac, il faut mettre en place une solution globale à très grande échelle. Et ça, le gouvernement bolivien semble l'avoir compris. Première phase du plan de sauvetage, financé par la Banque interaméricaine de développement, une station d'épuration pour la ville tentaculaire de El Alto Ville, qui n'existait pas il y a 30 ans et qui compte maintenant quasiment 1 million d'habitants. Et pourtant, eh bien, son usine de traitement des eaux usées actuelle a une capacité d'à peine un peu plus de 500 000 personnes. Alors, l'agrandissement de la station doit être terminé en 2020. Deuxième phase du plan de sauvetage, un projet à 115 millions d'euros qui devrait être mené en coopération avec l'Agence française de développement. Présent au colloque, Laurent Hainaut de l'AFD nous explique ce projet plus en détail.
C'est un programme qui est très ambitieux, alors qui compte des infrastructures. Donc on prévoit, si tout va bien, de construire des sites d'enfouissement, donc avec des activités de compostage, de recyclage, aussi des stations d'épuration et des ouvrages d'atténuation du risque d'inondation. Donc ça, c'est pour les infrastructures. Ensuite, on a aussi une composante de gestion intégrée des ressources en eau, une autre composante assez ambitieuse de protection et restauration des écosystèmes, donc avec des activités de reboisement, entre autres avec des espèces natives, aussi une composante de recherche scientifique en partenariat avec l'IRD, et enfin, une composante aussi d'assistance technique pour aider toutes les institutions qui sont concernées par le programme.
Et selon Xavier Lazaro, rien n'est perdu.
Tout le lac n'est pas en train de mourir. Non plus, c'est pas qu'une partie du lac est en train de mourir. Non, une partie du lac va mal, oui, c'est vrai. Les parties les moins profondes vont mal. Mais on sait pourquoi et on a des solutions pour résoudre cela.
Le lac Titicaca retrouvera donc un jour ses eaux cristallines.
On est content de finir sur une bonne nouvelle. Le lac va retrouver son eau cristalline. Merci beaucoup, Alice Campagnol, pour Un jour dans le monde sur France Inter. Voici Police, Solemnly. Solemnly de Police sur France Inter, l'album Regatta de Blanc qui est comme nous tous, ça n'a pas pris une ride.
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati per l'Europa.
Un jour dans le monde.
Géniale.
Et bonsoir Bruxelles, le rendez-vous avec l'Europe du jeudi dans Un jour dans le monde, des histoires d'Europe avant le vote du mois de mai qui vont vous ravir ou vous exaspérer. C'est fait pour. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Fabienne et bonsoir à toutes et à tous.
Alors avec vous Quentin, on va s'intéresser à la scolarité du Grand-Duché du Luxembourg. Vous êtes depuis le sommet de Salzbourg, on vous a entendu sur France Inter. Et cette histoire de langue dans le Grand-Duché répond finalement au Brexit et c'est assez inattendu comme conséquence.
Et oui Fabienne, vous le savez, depuis le lendemain du référendum du Brexit, celui-ci provoque le départ du Royaume-Uni d'un nombre croissant d'entreprises à vocation internationale, des banques, des fiduciaires, des centres de coordination des activités en Europe de groupes multinationaux notamment. Alors sur le continent, ces sociétés font l'objet de toutes les convoitises et on se les arrache de Paris à Amsterdam et de Francfort à Dublin, sans oublier les Luxembourgeois jamais en retard d'une bonne affaire et qui ont constaté l'importance de la scolarité de la progéniture de ces cadres internationaux dans le choix du lieu de réimplantation de leur employeur. Et ça marche. Depuis 2016, année du référendum, ce ne sont pas moins de 4 écoles publiques entièrement nouvelles qui sont sorties de terre, chacune offrant un enseignement complet en langue anglaise. La plus récente a ouvert ses portes lundi dernier et les inscriptions ne faiblissent pas. C'est que jusqu'ici, le choix se limitait aux 2 écoles européennes, destinées en priorité aux enfants de fonctionnaires européens, et aux 2 écoles privées, dont les frais de scolarité oscillent tout de même entre 13 000 et 17 000 euros par an. L'initiative du gouvernement luxembourgeois permet donc un enseignement anglophone de qualité auquel se rajoute l'avantage d'un milieu déjà trilingue, français, allemand, luxembourgeois.
Mais alors, vous nous dites que ça marche, c'est ce que vous disiez à l'instant, Quentin. Est-ce qu'on a des chiffres précis ou pas ?
Oui, alors les voici. L'année dernière, l'on a enregistré 1621 nouveaux élèves et les prévisions sont de plus de 2200 à la prochaine rentrée. Le système est modulé au choix entre le cursus britannique du A-level et l'équivalent américain avec les 2 autres options que sont le baccalauréat européen et le baccalauréat international. Pour mémoire, les dernières statistiques fournies par le Grand-Duché font état d'une 50aine de sociétés financières déjà installées, ayant abandonné la City de Londres. Les Luxembourgeois se frottent les mains, ils peuvent le faire. Ils pensent qu'à la fin de l'année prochaine, ce sont 3000 nouveaux emplois internationaux qui seront créés chez eux et ils ne doutent pas que l'offre scolaire y est pour beaucoup.
Quentin Dickinson, merci beaucoup en direct avec nous depuis Salzbourg.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
Le monde à l'envers, c'est Cyril Sauvageau. Ce soir, Cyril, Angela Merkel n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle a réussi cette semaine à désamorcer une nouvelle crise politique en acceptant le limogeage du chef des renseignements intérieurs qui était accusé de collusion avec l'extrême droite. Mais la chancelière n'est pas tirée d'affaire.
Eh bien, au contraire, Fabienne, cette affaire n'a pas fini d'empoisonner la grande coalition. D'ailleurs, au moment où l'on se parle, la guéguerre a déjà repris de plus belle à Berlin. Ce qui pose problème cette fois, c'est le recasage de Hans-Georg Maaßen. Le chef des renseignements a certes été écarté de son poste. C'était devenu inévitable après les révélations en cascade sur ses liens troubles avec l'extrême droite. Mais le puissant ministre de l'Intérieur, le bavarois Horst Seehofer, qui l'a toujours soutenu, lui a trouvé une porte de sortie, un poste de secrétaire d'État à ses côtés avec promotion salariale à la clé. Vous conviendrez qu'on a vu pire comme sanction disciplinaire. Résultat, les alliés sociaux-démocrates du SPD hurlent au scandale, ils s'estiment floués et montrent du doigt devinez qui ? Angela Merkel, la chancelière, a voulu contenter tout le monde, ménager la chèvre et le chou en prenant l'une de ces demi-décisions dont elle a le secret. Mais il faut se rendre à l'évidence, la méthode Merkel, ce sens du compromis et de la mesure qui a fait sa force, cette méthode ne fait plus guère illusion dans l'Allemagne de 2018.
Et même à vrai dire, Cyril, le 4e mandat d'Angela Merkel, ça ressemble à un interminable calvaire.
Comme disait Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Et c'est un peu le problème avec Angela Merkel, indéboulonnable chancelière, reconduite pour un 4e mandat, mais qui n'est plus effectivement que l'ombre d'elle-même, un peu d'ailleurs comme son ancien mentor Helmut Kohl au crépuscule de son règne. Lundi, ça fera un an, jour pour jour, que la CDU a gagné les législatives. Un an pour quoi faire ? Il a d'abord fallu 6 mois de tractation pour accoucher d'une fragile coalition. Pendant ce temps, une Allemagne aux abonnés absents sur la scène européenne et depuis des crises gouvernementales à répétition avec toujours comme sujet de discorde la politique migratoire de l'Allemagne. Angela Merkel n'en finit pas de payer sa décision en 2015 de ne pas avoir fermé les portes du pays aux réfugiés. Pendant longtemps, le poids politique, l'autorité de la chancelière suffisait à maintenir la discipline dans son camp, mais les temps ont changé. L'actualité allemande charrie son lot de faits divers et d'affaires criminelles impliquant des demandeurs d'asile. Et face aux critiques, Angela Merkel ne semble plus en mesure de peser, de donner le tempo. Elle est réduite à subir, à prendre les coups. Elle fait le dos rond et elle se fait surtout la plus discrète possible, ce qui n'est jamais bon signe pour un dirigeant.
Et l'exemple le plus flagrant, c'est ce qui s'est passé évidemment tout dernièrement dans l'ex-Allemagne de l'Est.
À Chemnitz, oui, c'était à la fin de l'été, une flambée de violence raciste dans cette ville du sud-est du pays après le meurtre d'un Allemand et l'arrestation de suspects immigrés. Défilés néo-nazis, expéditions punitives contre des étrangers, les images de Chemnitz donnent les froids dans le dos, rappelant les pires heures de l'histoire allemande. Et Angela Merkel, dans tout ça, certes, la chancelière a condamné publiquement les violences, mais pourquoi n'est-elle pas intervenue davantage? Un déplacement sur place était prévu, il n'a jamais eu lieu. Une nouvelle illustration de l'incapacité de la chancelière à retrouver le bon tempo. Alors certes, elle n'a jamais aimé gouverner sous le coup de l'émotion. Elle n'est pas du genre à se précipiter sur le premier fait divers, mais cette distance qui a longtemps fait sa force est aujourd'hui une faiblesse, car même en Allemagne, souvent considérée comme un îlot de stabilité politique, même en Allemagne, le populisme gagne du terrain, le climat se durcit et c'est à celui qui parle le plus fort. Bref, tout le contraire d'Angela Merkel, dont le style et la façon de gouverner semblent appartenir déjà à une autre époque.
Cyril Sauvageau dans Le Monde à l'envers, merci beaucoup. Cyril, on y reviendra d'ailleurs probablement lundi sur cette année, puisque c'est l'anniversaire exact, le 24 septembre. Cette année, Angela Merkel, qui a été une année extrêmement difficile. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne juste avant le journal de Sébastien Power. Merci de passer la soirée avec nous. Ne bougez pas.